Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Et bonjour Sophie Hachène.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre journal sur Europe 1, il est 6h.
Toutes les hypothèses ont pu tourner dans la tête de mes clients. Celle qui se présente aujourd'hui est la pire de toutes.
Presque 30 ans après l'assassinat d'une mère et de sa fille en Isère, la science a permis de confondre le coupable. Le père de famille a été rattrapé par son ADN. Dans ce journal, la levée anticipée des restrictions sanitaires, plus de masques en extérieur à partir d'aujourd'hui. Et dimanche, c'est au couvre-feu qu'il faudra dire au revoir. Un tête-à-tête sous le signe de l'apaisement entre Joe Biden et Vladimir Poutine en Suisse. Et puis le meurtrier de Julie Dwib, condamné à perpétuité, c'était l'unique volonté du père de la victime.
La page des sports à suivre et mon invité inattendu qui sera un prof de philo inattendu. C'est le bac qui commence aujourd'hui. Vous allez découvrir que celui que vous connaissez plutôt comme humoriste a commencé sa vie comme prof de philo. Et à sa manière, il va nous raconter ça dans un quart d'heure. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et on commence avec cet incroyable rebondissement dans cette enquête jamais résolue. Il y a 28 ans, près de Grenoble, une mère et sa fille étaient retrouvées égorgées à leur domicile. Le dossier n'avait jamais été refermé. Et cette semaine, le père de famille a été arrêté, confondu par des traces ADN indétectables à l'époque. Le récit de notre correspondant Jean-Luc Boujon.
Tous les scellés du dossier rouvert il y a quelques mois ont été réexaminés à la lumière des nouvelles techniques du laboratoire de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie qui ont mis en évidence les traces de sperme du père de famille sur le pantalon de sa fille, explique le procureur de Grenoble, Éric Vaillant.
Avant, donc, il fallait des quantités supérieures de sperme ou de sang pour trouver de l'ADN. Aujourd'hui, on peut découvrir donc de l'ADN dans des traces beaucoup plus fines.
L'alibi du père, un voyage en Roumanie, son pays natal auprès de sa famille pour les fêtes de fin d'année, jugé très solide à l'époque, a donc lui aussi été réexaminé. Et les enquêteurs ont eu la conviction que l'homme avait pu faire un aller-retour très rapide entre les deux pays pour commettre son crime. Marianne Marinescu, 72 ans aujourd'hui, vient donc d'être arrêtée. Devant les gendarmes, il a simplement expliqué qu'il ne se souvenait de rien. Mais cette révélation a bouleversé la sœur de la mère de famille assassinée, explique son avocat, maître Hervé Gerbi.
Toutes les hypothèses ont pu tourner dans la tête de mes clients. Celle qui se présente aujourd'hui est la pire de toutes. Parce qu'ils ont, pendant ces 28 années, reconstruit une vie familiale autour de celui qui est aujourd'hui mis en cause. Les relations ont toujours été soutenues.
Le père de famille, qui a choisi jusqu'à présent de garder le silence, a été mis en examen et incarcéré. Grenoble, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et l'autre grand titre ce matin, ce sont les Français qui vont pouvoir respirer un peu. Le masque n'est plus obligatoire dès aujourd'hui.
Sauf plus obligatoire en extérieur, sauf dans les lieux de regroupement comme les marchés, les files d'attente ou encore les tribunes de stade par exemple. Autre bonne nouvelle, le couvre-feu sera levé à partir de dimanche, 6h du matin, soit 10 jours avant la date prévue. Et Victor Dolande, comment le gouvernement a pu prendre ces décisions si rapidement ?
Alors en fait, le gouvernement s'appuie sur des très bons chiffres, même meilleurs que ce que prévoyaient les épidémiologistes. Il y a actuellement 3500 nouveaux cas de coronavirus par jour en moyenne, soit une baisse de 40% sur la dernière semaine. C'est simple, on n'avait plus atteint un niveau de contamination aussi bas depuis la mi-août 2020. La pression diminue également dans les hôpitaux. Pour l'infectiologue Benjamin Davido, lever le port du masque à l'extérieur se justifie car les contaminations sont 20 fois moins importantes qu'à l'intérieur. Il est en revanche plus circonspect sur la levée anticipée du couvre-feu.
On sait que bientôt il va y avoir la fin du lycée, du baccalauréat, de tout un tas d'épreuves pour les étudiants. Ils vont avoir envie de se réunir et que lorsqu'on est à l'extérieur, à un moment donné, s'il n'y a pas de couvre-feu, eh bien on va se retrouver à l'intérieur. Dans cette situation, c'est là où le masque va rester d'actualité. Il n'y a pas de raccourci pour penser que ce qu'on a vu ces derniers jours invalides, c'est-à-dire pas de couvre-feu, pas de masque en extérieur, va s'appliquer à partir de la semaine prochaine. Ça serait une grave erreur de penser ça.
Selon lui, il va falloir redoubler les messages de prévention, notamment auprès des jeunes. Il va falloir aussi continuer à tester pour bien remonter les chaînes de contamination et surtout accélérer la vaccination durant l'été pour se rapprocher un peu plus de l'immunité collective.
Et justement, à l'heure où nous parlons, plus d'un quart des Français sont complètement vaccinés et près de la moitié ont reçu une première dose.
Joe Biden a terminé sa tournée européenne après sa rencontre avec Vladimir Poutine hier à Genève.
Un premier tête-à-tête très symbolique entre les deux présidents pour apaiser les tensions entre les États-Unis et la Russie. Elena Voloshine, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Moscou. Vous avez fait le déplacement en Suisse pour suivre cette rencontre. Quel bilan peut-on tirer de ces échanges ?
Eh bien, remettre sur les rails une relation désastreuse, c'était tout l'enjeu de cette rencontre ici à Genève. Premier symbole d'une détente, le retour des ambassadeurs, rappelé un peu plus tôt cette année sur fond de tension. Pour le reste, Joe Biden attend de voir.
Après 2 heures de face-à-face, on s'est regardé l'air de dire « Ok, c'est quoi la suite ?» Parce que dans 3 à 6 mois, il faudra regarder en arrière et se demander ce sur quoi on s'est mis d'accord pour travailler. Est-ce que ça a marché ?
Reprendre le dialogue sur les questions stratégiques comme la cybersécurité et le désarmement, notamment nucléaire, une priorité urgente pour les présidents russes et américains, sommet de résumer leur rencontre en une phrase pour une fillette de 9 ans. Vladimir Poutine s'est exécuté.
Les chefs de 2 pays, des 2 plus grandes puissances nucléaires mondiales, se rencontrent pour faire de ce monde un endroit sûr, sécurisé et une demeure prospère pour tous les habitants de notre planète.
Un programme pour le moins ambitieux, tout comme l'était ce sommet, exceptionnel même pour la ville de Genève qui en a pourtant connu d'autres.
Elena Volochine en Suisse pour Europe 1. En France, Gérald Darmanin part en guerre contre les rodéos urbains et demande au directeur général de la police 50 opérations de contrôle à partir de samedi, avec une saisie systématique des 2 roues dans les quartiers les plus touchés par le phénomène.
Cette drôle d'alliance, à présent, le groupe LVMH s'associe à Google pour mieux gérer ses données.
Oui, les 2 géants n'ont a priori rien en commun et pourtant ils viennent de signer un partenariat technologique à l'occasion du salon VivaTech qui se déroule en ce moment à Paris. Le boss du numérique et le numéro 1 mondial du luxe s'allient sur le cloud, l'informatique dans les nuages. Et Clément Le Saffre, que vient faire LVMH dans ce secteur ?
Eh bien, c'est le Covid qui a poussé le groupe de Bernard Arnault dans les bras de Google. Avec la fermeture des magasins, les ventes en ligne ont explosé. Ventes qui s'accompagnent de tonnes de données précieuses sur les habitudes d'achat des clients, à condition, bien sûr, de savoir les traiter. Alors, grâce à ce partenariat, LVMH va s'appuyer sur les compétences et les infrastructures de Google dans le cloud pour, par exemple, optimiser sa chaîne de production. Franck Lemoyle, directeur du numérique de LVMH.
Il y a à peu près 3 ou 4 ans, quand on avait un signal de vente, c'est-à-dire des produits qui étaient vendus dans un certain nombre de magasins, pour remonter les signaux de vente à nos ateliers de production, il nous fallait en moyenne 17 à 20 jours. Aujourd'hui, en travaillant ces données avec des algorithmes, avec l'intelligence artificielle, en 2-3 jours, on est capable d'ajuster les productions de nos ateliers.
Le groupe de luxe entend également utiliser les données pour proposer des offres encore plus personnalisées à ses clients en fonction de leurs habitudes d'achat ou de leur localisation géographique, sous réserve évidemment que les clients autorisent explicitement LVMH à exploiter leurs données.
Clément Le Saffre, spécialiste nouvelles technologies pour Europe 1.
À 6h07, le verdict est tombé hier. L'ancien compagnon et meurtrier de Julie Douib écope de la prison à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans.
Et en plus de cela, il est privé de son autorité parentale sur les 2 fils du couple. Et ça, c'est un soulagement pour Lucien Douib, le père de Julie, qui a la garde provisoire des enfants.
On va pouvoir me libérer de ce combat qu'on mène, ce combat juridique. Hein. Le combat contre la violence faite aux femmes, je continuerai de toute façon. Ça, c'est clair et net. Mais on va pouvoir avancer différemment. Eux, ils vont pouvoir dire, ça y est, on respire. Ils n'auront plus tous les 6 mois se demander ce qu'ils vont devenir. Et nous aussi, on n'aura pas à chaque fois à se demander qu'est-ce qu'on doit fournir, qu'est-ce qu'on doit faire pour enfin vivre, enfin être libre. Ça fait 2 ans et demi qu'on a une épée de Damoclès sur la tête. Et bien on va pouvoir vivre. Voilà, et je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. On pense à Julie depuis 2 ans et demi. Donc le verdict nous a, si elle est là-haut et qu'elle nous écoute, j'espère qu'elle sera contente de nous.
Des propos recueillis par Marion Dubreuil qui a suivi l'intégralité du procès aux assises de Haute-Corse pour Europe 1. Ce rebondissement dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard dans le Tarn, son mari a été placé en garde à vue hier ainsi que sa mère et son beau-père. En avril, Cédric Jubilard avait été entendu en qualité de partie civile, donc de victime. Il avait ensuite participé à une battue citoyenne pour retrouver sa femme ainsi qu'à une marche blanche. Et puis la Chine vient d'envoyer sa première mission habitée vers la station spatiale chinoise. 3 taïkonautes ont décollé du désert de Gobi cette nuit. Ils passeront 3 mois dans le premier module de la station.
Le journal signé Sophie Echen sur Europe 1. Il est 6h09.